sans transition, parce que j'adore la marionnette, nous allons passer au troisième mouvement. Et donc, je vais demander à Pascal Robert de nous rejoindre à la tribune. Ah, ça fonctionne toujours. Je lui dois de doubles excuses. D'abord, de n'avoir pas indiqué son université présente de rattachement, puisque c'est maintenant la prestigieuse université de Montpellier 3. C'est un Montpellierin qui vous parle, un peu ironiquement d'ailleurs, mais ça restera entre nous, qui l'accueille. Et puis par ailleurs, parce que j'ai évoqué, sans l'évoquer, l'article qu'il a consacré au BOC de l'an 2000. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un article, je ne me souviens pas, l'auteur était dans la salle, donc il s'agit bien de Pascal Robert. Ce qui nous permet d'ailleurs de mentionner, juste en incise, que l'une des rares revues qui a un discours un peu critique, en tout cas proche des préoccupation que j'ai souhaité pour cette journée, l'une des rares revues françaises sur la question, s'appelle Terminal. C'est dans cette revue d'ailleurs qu'était paru l'article de Pascal Robert, qu'elle existe toujours et qu'elle est distribuée. Alors là, c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile de savoir qu'elle existe et qu'on peut la trouver, par l'Harmattan, que vous connaissez sans doute, mais si vous êtes plusieurs dizaines à inonder l'Harmattan, eh bien, il sera convaincu de la viabilité économique de la dite revue. Voilà, sur ce, je laisse la parole à Pascal Robert. Est-ce que vous avez besoin du vidéoprojecteur ou pas?
Non, pas non, du tout.
Alors je l'éteins, sinon ça va distraire les troupes.
Tout à fait, oui. Bien, merci et bonjour à tous. Alors, j'ai un titre qui est un peu, en définitive, différent de celui que j'avais proposé dans un premier temps à Yves Desrichard. Enfin, je lui avais indiqué que ça changerait en cours de route, et puis en cours de discussion aussi. Alors, c'était à la base l'impensée informatique des années 70 à Internet, et c'est devenu une nouvelle logique pratique de l'impensée des TIC. Ça tourne toujours autour de cette notion d'impensée de l'informatique et des TIC, avec un sous-titre, le Web 2.0, comme symptôme d'un déplacement au sein du régime de discursivité des TIC. Un petit peu complexe, mais il y aura une version écrite. Apparemment, il y a un site qui est prévu, et puis quand on le lit, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Et puis il y a quand même l'exposé qui va vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Alors, en introduction, j'ai envie de commencer par une référence à un philosophe qui s'appelle Dominique Chanicot, qui a écrit un livre qui était un livre intéressant sur la technique. S'intitule la puissance du rationnel. Et dans la puissance du rationnel, Janicot avançait une idée qui était une idée intéressante, avec laquelle je ne suis qu'à moitié d'accord, mais qui est quand même une idée qui mérite qu'on la rappelle. Il disait qu'une société technicienne fonctionnerait et se tairait. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans une société qui n'est peut-être pas totalement technicienne, c'est peut-être ce qu'il voulait dire aussi, et qui est déjà bien engagée dans une forte technicisation, et cette société, ça reste quand même une société bavarde. Nous sommes dans une société qui est une société très bavarde, et j'allais dire, je crois que nous sommes dans une société dans laquelle on n'a jamais, au fond, déversé un tel flot de discours sur elle-même. Je crois qu'on est peut-être pour la première fois, à travers cette société médiatique qui est la nôtre, dans une société qui n'arrête pas de se dire elle-même, donc de se construire aussi à travers le discours qu'elle porte sur elle-même. Et ce discours est un discours totalement pléthorique. Et naturellement, ce discours, il porte aussi sur les technologies de l'information et de la communication. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à ces discours. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est au fond une réflexion autour de deux grandes catégories, ces discours qui tournent autour des TIC. Au fond, il y a ce que j'appelle le discours numéro 1. Le discours numéro 1, au fond, c'est celui qui est porté sur les TIC. C'est le discours qui est porté sur les TIC, notamment à partir, bien évidemment, de l'espace médiatique. Et puis, il y a ce que j'appelle le discours numéro 2, bien évidemment. Et le discours numéro 2, c'est celui que les TIC elles-mêmes portent sur le monde. Et donc, je vous présenterai tout à l'heure ce que j'entends par là. Quel est ce discours numéro 2 que les TIC portent sur le monde ? En deux mots, nos technologies informatiques nous proposent tout un ensemble de catégorisations du monde à travers lesquelles nous sommes amenés souvent à nous reconnaître et nous penser. Et dans ce cas-là, eh bien, il s'agit bien d'un discours qui est porté par les TIC sur le monde et sur, j'allais dire, la mise en catégorie du monde. Alors, la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une évolution de ce que j'appelle le régime de discursivité lié à CTIC, donc le rapport entre ces deux discours, et quelle est l'évolution que ce rapport a pu connaître depuis globalement les années 70. Alors je vais commencer par le premier, par présenter les deux types de discours, et donc commencer par présenter le premier discours, le discours numéro 1. Alors la question que je me pose, c'est comment le qualifier ? Ce discours, ça correspond à une approche qui est globalement dominante actuellement en sociologie, en sciences de l'information et de la communication, et qui résonne en termes d'imaginaire. Je ne suis pas d'accord et je ne vais pas m'étendre ici avec cette notion d'imaginaire. Je l'ai critiqué dans des travaux qui sont publiés. Je propose donc une autre approche, et cette approche, c'est celle qui tourne autour de la question de l'impensé informatique. Alors, qu'est-ce que j'entends par impensé informatique ? C'est une notion que j'ai élaborée à partir d'un ensemble de travaux sur des corpus de presse. Ça a commencé avec ma thèse, hein, qui s'intitule « L'impensé informatique », qui se trouve d'ailleurs sur le site de l'ENSIB, si vous avez envie de la fréquenter, j'allais dire. Donc en 94 jusque très récemment, passant par pas mal d'articles sur la carte d'identité, sur le BOG, auquel faisait référence Yves Desrichard tout à l'heure, en l'occurrence. En travaillant sur ces corpus de presse sur un long terme, des années 70 à nos jours, je me suis rendu compte que l'approche thématique était très souvent redondante. Enfin, était totalement redondante. On retrouve régulièrement l'informatique et l'école, l'informatique et la police, l'informatique et la justice, l'informatique et le sport, etc. Et à chaque fois, l'informatique, c'est une sorte de gentil boy scout qui aide chacune de ces questions à résoudre ses propres problèmes. Donc ça, c'est récurrent. Et je me suis dit, au fond, une approche thématique, qu'est-ce que ça nous apprend de plus sur l'informatique ? Pour dire les choses autrement, lorsqu'on lit toute cette littérature médiatique, hein, de la presse écrite, sur l'informatisation de la société, d'une certaine manière, on n'en sait pas beaucoup plus après qu'avant. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi, néanmoins, est-ce qu'il y avait un tel discours, et un discours aussi pléthorique, et un discours qui ne s'arrête pas, puisqu'on est toujours dans ce même type de discours. Alors j'ai mis une hypothèse, bon, elle vaut peut-être ce qu'elle vaut, mais elle mérite peut-être d'être réfléchie. Au fond, je me suis dit, ce discours, il a une fonction, et qui est celle de mettre l'informatique et les technologies de l'information et de la communication dans une position qui les rendrait évidentes. Et cette mise en évidence, dans ce sens-là, elle est liée à une opération bien spécifique qui vise à soustraire, en fait, l'informatique et les TIC aux épreuves de justification politique et éthique. Donc, ce discours de l'impensé, ce discours pléthorique auquel nous faisons face et qui est celui des médias, c'est moins un discours qui nous apprend des choses sur l'informatique, c'est moins un discours qui nous apprend des choses sur les TIC, qu'un discours qui permet de poser l'informatique et les TIC dans une position telle qu'elle puisse être retirée des épreuves de justification politique et éthique. Donc il y a des questions qu'on ne leur pose pas. Il y a une critique qui n'est pas développée. Et justement, ce discours vise à occuper la place, si vous voulez, en quelque sorte, pour que, les bonnes questions ne soient pas posées. Donc, cette informatique, grâce à ce discours et les TIC, sont bien posées, elles, dans une logique qui est celle de l'évidence de leur performance. C'est là et ça fonctionne. Il y a souvent dans ces discours cette idée, par exemple, que la technique est déjà là. Et les mots sont écrits, déjà là. Quand vous êtes dans une logique du déjà là, eh bien tout est fait, justement, puisque c'est déjà là. C'est une logique qui n'est même pas une logique de la justification, c'est une logique qui n'a pas besoin, justement, de justification, puisque c'est déjà là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une soustraction des épreuves de justification, et non pas, comme certains sociologues l'avancent, une logique de la justification. On n'est pas dans la justification, on est dans l'évidence. C'est déjà là, ça ne se discute pas. Et ça ne se discute tellement pas qu'avec ce déjà-là, on est mis dans une position qui, par définition, ne peut pas être celle de la discussion. Deuxième type de discours, donc le discours numéro 2, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est un discours qui renvoie à la performativité. En fait, il y a deux types de discours qui sont liés, l'un à la performativité économico-gestionnaire et l'autre plus récent, mais dont je vais essayer de dire qu'il n'est qu'une variation sur le premier, et qui se voudrait une performativité sociale. Alors, la performativité économico-gestionnaire du discours numéro 2, elle a été montrée il y a très longtemps, notamment par, dès les années 70, par les travaux de Jamousse et Grignon, hein, qui montraient que l'ordinateur, c'est socialement, politiquement, un outil qui, à travers la vaste machinerie statistique, permet de créer des catégories, et donc de créer des catégories à travers lesquelles des populations sont amenées à se penser et s'accepter comme telles. Donc globalement, au-delà de cet effet très très général, je veux dire, c'est ce qui se passe aussi à chaque fois qu'il y a un système informatique qui est installé dans une organisation et qui crée des classes, des catégories, etc. Cette performativité sociopolitique, elle repose sur une performance qui est une performance technique et qui est très largement liée aux banques de données. Alors, qui peuvent être, suivant les époques, plus ou moins montées en réseau. Et la puissance de ces technologies de l'information et de la communication, elle s'exprime à travers ce que j'appelle le formatage généralisé. Le formatage généralisé, j'entends par là un discours qui vient à reconfigurer le réel de façon à ce que, au fond, ce réel soit non seulement compatible avec les catégories que présente l'informatique, mais qu'elles entrent complètement en adéquation avec elles. C'est-à-dire qu'au fond, on serait dans une logique de réagencement du réel à l'aune des catégories informatisées plutôt qu'à l'inverse. Et on est en même temps complètement en cohérence avec une logique qui est d'articulation de l'informatique avec la gestion. Ailleurs, je prétends qu'il y a une sorte de réversibilité entre informatique et gestion. Du moment qu'il y a de la gestion, il y a une génération d'informations qui peut toujours être automatisée. Et du moment qu'il y a de l'informatique, eh bien, il y a suffisamment d'élaboration d'informations pour produire toujours une gestion. Donc vous avez une réversibilité entre les deux qui est la base de cette idée de formatage généralisé. Donc ce réagencement des activités de la société à l'aune d'un système abstrait de codage, il s'est développé très tôt avec l'informatique. Je crois qu'il s'exprime pleinement dans les années 70 avec une informatique relativement lourde de gestion de grandes entreprises publiques et privées. Il se réactualise à travers la micro-informatique des années 80. On pouvait supposer, comme André Vitalis l'a rappelé ce matin, ou nous l'a appris, enfin pour moi il me l'a appris, qu'un Jacques Ellul pensait que la micro-informatique, mais avec beaucoup d'autres hein, bien évidemment, allait révolutionner au fond le monde dans lequel on vivait par une forte démocratisation, et puis on s'est rendu compte que simplement ça permettait de diffuser encore plus d'informatique avec une sorte de granularité beaucoup plus précise qu'avant. Donc une sorte de finesse dans la granularité et non pas une négation ni de la centralisation ni même du processus informatique. C'est la continuation du processus informatique et pas tant par d'autres moyens que ça, mais bien par les mêmes, mais sous une autre forme qui permet d'être, de disséminer l'informatique dans le tissu social de manière beaucoup plus pointue et beaucoup plus précise. Et puis on arrive donc à l'informatique de réseau qui ne rejette pas du tout cette logique-là. Alors, on cherche à nous faire croire, je crois, que cette logique de la performativité, elle se transformerait en une sorte de performativité sociale qui serait nouvelle, le tout donc avec des guillemets, et qui tournerait autour des notions d'interactivité, de participation, ou plus globalement, autour de la notion de Web 2.0. Moi, je pense, je ne suis pas le seul, bien évidemment, à le penser, qu'en fait, il ne faut peut-être pas se laisser abuser. Parce que bon, si à travers ces technologies l'expression est libre, elle est d'autant plus libre, mais ça a déjà été dit ici depuis ce matin, que ce qui compte, c'est l'information qu'elle offre sur le mode de vie et de penser de celui qui s'exprime. Donc si on accepte tant qu'il s'exprime sur des plateformes comme Skyblog, c'est surtout pour qu'il révèle un certain nombre de choses à propos de ce qu'il fait, de ce qu'il consomme et de ce qu'il est. Et là aussi, bien, ça permet de nourrir des bases de données derrière et ça ne signifie pas vraiment une logique de la participation, ou moins une logique de la participation, qu'un accroissement de ce que j'appelais tout à l'heure le formatage généralisé, donc le réagencement de la société à l'aune des technologies de l'information et de la communication, puisque la technique devient un espace qui prétend être un espace social lui-même. C'est plus la société qui est prise en main et qui est recatégorisée par la technique, c'est l'espace social qui devient équivalent à la technique, ou plutôt la technique qui devient elle-même un espace social. Donc à ce moment-là, il n'y a même plus à retechniciser un espace social. L'espace social est l'espace technique, ou l'espace technique est l'espace social. Donc on est en plein dans une sorte de passage à la limite de cette logique du formatage généralisé. Alors, ces deux types de discours, le discours numéro 1 et le discours numéro 2, ils sont en train de, dans leur rapport, leur relation est en train d'évoluer. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'il y a deux modèles du régime de discursivité des TIC. Donc, un modèle numéro 1 et un modèle numéro 2. Alors, dans le modèle numéro 1, le discours qui était un discours de type D1, le discours que, par exemple, la presse porte sur les TIC, était justement un discours essentiellement rendu visible et accessible par un support qui était un support papier, le support de la presse papier en l'occurrence. Et pour la presse, les TIC étaient un objet d'intérêt parmi tant d'autres. Et le discours de type D2, c'était un discours qui renvoyait au développement par le support des TIC de bases de données susceptibles de dire le monde à travers leur langage, leur code et leurs données. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le support et l'objet étaient clairement distincts et les deux types de discours, le D1 et le D2, étaient également totalement distincts. Même si on pouvait toujours dire les opérations du formatage généralisé, donc du D2 à travers le D1, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il y avait bien cette distinction entre le D1 et le D2. Et ce discours numéro 2... c'était un discours qui travaillait à promouvoir une logique politique singulière, que j'ai exploré dans un bouquin qui est sorti en 2005, et que j'appelle le glissement de la prérogative politique. J'entends par glissement de la prérogative politique, au fond, une logique dans laquelle des acteurs privés, grâce aux technologies de l'information et de la communication, en viennent à satisfaire des intérêts qui sont des intérêts particuliers, les leurs, mais en investissement des objets, des fonctions qui étaient traditionnellement étiquetés comme politiques. Donc au fond, c'est la possibilité, à travers la technique, de pouvoir récupérer des fonctions et une sorte, au passage, de légitimité politique, alors qu'on est encore un acteur privé. On le voit, par exemple, avec la cartographie. La cartographie, c'était, alors on peut le regretter, hein, essentiellement quelque chose qui était aux mains des États, peut-être parfois confisqué, certes, mais qui relevait de la sphère publique. Et de plus en plus, la cartographie relève de la logique de l'entreprise, et n'est que de voir Google, qui, par ailleurs, met à disposition un ensemble de cartes dont on ne disposait pas par ailleurs. D'accord ? Je ne suis pas en train de juger la chose, j'essaie de comprendre le phénomène. Mais on est bien là dans un glissement d'une prérogative qui était politique vers des acteurs privés, qui, à partir de maintenant, peuvent effectivement, par exemple, produire des cartes, ou, je l'ai essayé de le montrer dans mon bouquin aussi, faire frontière, par exemple. La logique de la frontière, c'était une logique profondément politique qui relevait de l'État. Or, maintenant, dans le cyberespace, ce sont, au moins en tant que des États, des intérêts privés qui réactivent la fonction frontière à leur bénéfice, en jouant une logique qui est profondément toujours une logique politique, mais en prétendant que non. Puisque ce sont simplement, en guillemets, simplement des intérêts privés qui la mettent en avant. Deuxième modèle, donc évolution du régime de discursivité, il y a à la fois, selon moi, un déplacement et une conservation au sein de ce régime de discursivité des TIC. Alors je m'explique. Dans le modèle du numéro 1, donc, il y a bien une différence, mais qui semble complètement la palissade, entre le support et l'objet. Avec le modèle numéro 2, ce qui semblait une la palissade ne l'est plus, tout simplement parce que le deuxième modèle confond le support et l'objet, puisque les TIC deviennent à la fois ou tiennent à la fois un rôle de support, par exemple le web, et d'objet, le web et son futur. Donc là où on avait un discours petit presse-papier sur les TIC, on a un discours sur le web à propos du web. Donc j'allais dire, d'une certaine manière, ça devient relativement circulaire et ça se mord la queue. On n'a plus cette distinction claire entre le D1 et le D2. On est bien dans une logique que j'appelle un embrayage direct entre le D1 et le D2. Et ça, ça a des conséquences importantes, cette évolution du régime de discursivité. Et on va le voir à travers un exemple, et ça sera le troisième mouvement de ma présentation. Je vais reprendre le texte de O'Reilly sur le Web 2. Donc c'est un texte fondateur. Dans le papier, j'en fais une analyse assez détaillée. Là, je vais aller vite, hein, je vais rester dans les généralités. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce texte, c'est qu'on a une présentation des choses qui repose d'emblée dans une posture qui est de type autoréférentiel. Dès la première ligne du premier point, il qualifie lui-même le Web 2 de concept important. Donc on est dans une auto-évaluation. Si je dis quelque chose à propos du Web 2, ce que je dis est important à propos de ce dont je parle, c'est moi qui m'évalue tout seul, je n'ai pas besoin de vous en face de moi pour me dire si ce que je dis ça a du sens ou pas. D'accord ? Quel est le poids ou la grandeur de ce dont il est question ? Eh bien, c'est une auto-évaluation, c'est l'auteur qui nous dit que ça a de l'importance. Mais il le dit parce qu'il l'affirme. Parce que, et c'est le deuxième point critique que je voudrais souligner, on n'est jamais dans une logique de la démonstration. Ça, c'est assez extraordinaire dans ce papier. On n'est pas dans une logique de la démonstration, on est dans une logique de l'affirmation. Alors je montre ça de manière très précise dans mon article. Cette logique de l'affirmation, elle repose sur une démarche en deux ou trois temps, ça dépend des paragraphes, mais qui est toujours la même. L'auteur pose des principes, il en dresse sur des exemples et il tire des leçons ou non. C'est pour ça qu'il y a parfois deux ou trois étapes. Le principe, l'exemple et la leçon se retrouvent parfaitement alignés parce qu'ils le sont par construction dès le départ. On n'est pas dans une logique de la démonstration, on est dans une logique de l'affirmation qui permet de poser le Web 2.0 comme une évidence et qui, au fond, d'une certaine manière, ne laisse pas véritablement la place à la discussion. On est dans la continuité de ce que j'appelais l'impensée informatique tout à l'heure ou l'impensée des TIC. Ça fonctionne de la même manière. Alors cette évidence, elle est renforcée par deux traits. Elle est renforcée d'une part parce que le texte lui-même se trouve sur le web et non sur un support extérieur. C'est pas publié dans la presse, d'accord ? Même si des extraits ou peut-être tout le texte, je n'en sais rien, a pu être repris quelque part dans la presse. C'est d'abord publié sur le web et c'est connu comme étant un texte qui est publié sur le web. Et le fait qu'il soit publié sur le web, ça crédibilise quelque part ce qu'il peut dire d'un possible Web 2, de l'avènement d'un possible Web 2. Parce que, à partir du moment où on publie sur le web un texte qui est censé parler du Web 2, quelque part, on crée aussi, de manière circulaire, quelque chose qui ressemble à un Web 1. Là où on est pour parler du Web 2, ça ne peut être qu'un Web 1, en creux, en quelque sorte. Et le fait qu'il existe un Web 1, ça légitime le fait qu'il puisse exister un Web 2. Donc le Web 2 crée le Web 1 qui crée le Web 2. Donc il y a là aussi une logique pleinement circulaire qui est liée cette fois au support. Troisième point, c'est que l'évidence, elle est également renforcée au niveau thématique. Elle est renforcée au niveau thématique par le poids de des propositions qui sont de type économico-gestionnaire. Je dis bien propositions, ne sont pas véritablement des arguments. Et là encore, il s'agit même pas de justifier, mais il s'agit d'affirmer que le réel du Web 2.0, c'est la logique économico-gestionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est posé, là aussi, comme une évidence. La logique du Web 2.0, c'est une logique profondément économico-gestionnaire. Il n'y a pas de justification. Donc on est aussi là, toujours dans cette logique de l'impensé, puisque on a une construction qui travaille en fait, en réalité, à soustraire le Web 2.0 à la logique de la véritable justification politique. Et quand on regarde bien, l'appel à la participation dans le texte O'Reilly, il n'est pas du tout politique, mais il est seulement économico-gestionnaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'on trouve au cœur de ce Web 2.0 pour O'Reilly ? On trouve, il écrit, hein, texto, le data management. Le data management, donc globalement, la logique des bases de données, telle qu'on la rencontrait dès les années 70, donc quelque part, toujours cette logique qui relève de ce que j'appelais le discours de type 2. Donc pour moi, à travers ces trois traits, on est bien dans la continuation de ce que j'appelle l'impensée informatique et des technologies de l'information et de la communication. Et cette impensée soutient une opération politique, qui est une opération politique lourde, qui est une opération qui s'articule à deux temps. Le premier temps, c'est au fond naturaliser sur le web le développement et l'usage marketing des bases de données. Et cette naturalisation sur le web, elle passe par un discours de type D1, c'est le discours de O'Reilly lui-même. Et elle permet le développement et l'usage de marketing de bases de données, donc un discours de type D2, on est bien dans une catégorisation, d'accord, et qui est alimenté par l'activité des usagers elles-mêmes. Et le deuxième temps de l'opération politique, c'est récuser le politique pour que ne demeure en définitive légitime que la seule logique économico-gestionnaire. On est dans la continuité de ce que j'appelle le glissement de la prérogative politique. Donc c'est cette opération politique lourde qui est vue en quelque sorte en transparence à travers ce texte O'Reilly. Donc en conclusion, globalement pour moi, il en va bien d'une transformation du régime de discursivité des TIC, dont il convient de comprendre la logique de fonctionnement. C'est une transformation qui n'endrait ni sur une meilleure intelligence des TIC, parce qu'elle ne fait pas reculer ce que j'appelle l'impensée informatique. On n'en sait pas beaucoup plus après qu'avant, pas plus maintenant qu'avant en tout cas. Et elle n'endrait pas non plus sur une véritable revalorisation du politique. En tout cas, elle n'aboutit pas à véritablement combattre efficacement ce que j'appelle le glissement d'un prérogatif politique. Par contre, elle s'assoit sur le développement. Et là, je vais reprendre une expression qui vient du XVIe siècle, qui est celle de la Boétie. Le développement d'une véritable servitude volontaire des internautes à leur propre traçabilité économico-gestionnaire. Ça, je crois que c'est vraiment l'une des clés de compréhension du monde dans lequel on est et dans lequel on entre. C'est justement cette espèce de technicisation de la logique même de la servitude volontaire dont parlait la Boétie, donc au début du XVIe siècle, et peut-être qu'il y a la nouvelle forme automatisée de la servitude volontaire, en acceptant ces technologies de l'information et de la communication, cette exposition de nos vies, de nos pratiques sur les TIC, qui peuvent tout à fait et qui sont passées au tamis de la logique marketing, eh bien on accepte cette servitude volontaire et on peut se poser la question que se posait la Boétie, ben pourquoi ça existe et pourquoi ça se poursuit et pourquoi ça se continue. Voilà, merci.
Merci à Pascal Robert de sa présentation. Donc effectivement, je vous rappelle que sa thèse est disponible sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB, w3ensib.fr. C'est relativement facile à trouver. Alors j'aurais voulu que Eric, mais il a disparu pour l'instant, fasse une petite incise sur la cartographie. Donc je me suis laissé dire que c'était un de ses sujets de chevet. Il va peut-être revenir. Moi j'avais une petite une équation en forme de provocation qui est un peu exogène par rapport à ce que vous avez dit, mais qui peut-être pourra trouver sens. Est-ce qu'on pourrait dire que informatique plus gestion égale démarche qualité?
Ah, les trois sont liés, enfin à mes yeux, les trois sont liés, bien évidemment. À toute manière, la démarche qualité, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des démarches de gestion, par définition. J'ai longtemps enseigné dans un département de gestion avec des gestionnaires purs et durs qui appliquaient eux-mêmes ce type de démarche au département. Donc oui, on est en plein dans une démarche gestionnaire. Elle n'est pas obligatoirement très informatisée ou lourdement informatisée, la logique de la qualité. Mais en tout cas, elle peut rencontrer tout à fait l'informatique et les technologies de l'information et de la communication sans aucun problème. C'est-à-dire, le mariage se fait, je crois, sans aucun problème. Bon, j'ai pas étudié ça sur le mode scientifique de manière précise, hein. Ça relève plus d'un vécu que d'autre chose, mais c'est assez clair, oui. Je pense pas qu'il y ait en tout cas d'incompatibilité, ça c'est sûr.
Vous avez une autre question, plutôt une autre pensée qui m'est venue en vous écoutant. Alors on a évoqué avec Eric Bill Clinton, moi je pensais à Al Gore, qui avait lui aussi lancé une antienne très américaine, je pense que vous l'avez évoqué, si vous pouvez y revenir un petit peu, qui est la notion de frontière numérique. Il me semble que ça a été, je dirais, un des grands discours aussi informatiques de la fin des années 90, 2000, et de la mise en place d'une infrastructure qui qui puisse permettre, je dirais, d'avoir l'avènement d'Internet.
Bah, Al Gore, pour moi, oui, c'est la frontière, mais c'est pas la même, c'est la frontier au sens américain du terme. C'est plutôt essayer d'explorer et se construire à travers la construction d'un espace. Et c'est pour lui, me semble-t-il, c'était l'idée de continuer l'exploration de l'espace géographique à travers la construction d'un espace qui était un cyberespace. Moi, j'ai travaillé un peu là-dessus, et ce qui m'a intéressé, c'était le regard à travers cette hypothèse de l'impensée informatique. Il y a un livre que vous connaissez tous sur l'imaginaire d'Internet qui avance l'idée que, au fond, les autoroutes de l'information, c'est une utopie qui a échoué et qu'on est dans le domaine de l'imaginaire. Moi, j'ai toujours pensé, je ne sais pas pourquoi, qu'on était dans une logique qui était celle d'une offre politique sur un marché politique et en plein dans une logique de marketing politique. Mais je ne vois pas d'utopie ni d'imaginaire là-dedans. Par contre, je pense qu'on est en plein dans une logique qui renvoie à celle de l'impensé, oui, beaucoup plus. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
D'autres questions ?
Pour revenir sur la pensée de l'informatique, je me disais, il y a un aspect sur cet espace social qui est l'espace technique, le même, il nous est renvoyé comme toujours cohérent, convivial, positif. Or, je dirais, c'est bien là, justement, c'est jamais remis en cause. Dans le discours, on le sent comme ça apparaît comme tel, contrairement au véritable espace physique, social, c'est un espace qui est toujours cohérent, qui est toujours convivial.
C'est une pure vision idéologique, me semble-t-il, parce qu'il y a quand même un certain nombre de travaux qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'il y a aussi une sorte de report de l'espace social sur l'espace et de ses modes de fonctionnement pratiques dans l'espace du cyberespace, et que rien n'empêche qu'il y ait des conflits, des tensions, etc. etc.
Ça apparaît pas nettement dans les discours.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est pour ça que je parlais d'idéologie, c'est-à-dire qu'on est en plein dans le discours qui recouvre le réel pour le repeindre à d'autres couleurs que celles qui sont les siennes. Il n'y a pas de raison que le cyberespace, qui est aussi en train de devenir un espace social, quelque part, ne suive pas les règles de tout espace social. Donc, c'est pour ça que moi j'ai montré qu'il y avait de la frontière. S'il y a de la frontière, c'est qu'il y a du conflit, il y a des rapports de pouvoir, etc., etc., comme partout. C'est quasiment inévitable. Je ne vois pas pourquoi, en sautant sur Internet, d'un seul coup, les hommes deviendraient purs, bons et parfaits. C'est une absurdité totale. Donc ils restent comme ils sont en société, par ailleurs.
Et d'autre part, il y a une dualité aussi.
Sauf à supposer justement un déterminisme technique absolu qui fonctionnerait comme une baguette magique et qui aboutirait à une transformation de... Maintenant, il peut y avoir une modification des logiques de conflit. Il peut y avoir une modification, je ne dis pas que ça sera toujours les mêmes. Ce n'est pas parce qu'il y a toujours du conflit que les formes du conflit ne peuvent pas évoluer. C'est pas la même chose d'être en face à face et de discuter à travers un texte. Donc peut-être que les formes du conflit peuvent se modifier. Ça n'empêchera pas le fait qu'il y ait du conflit. C'est deux choses quand même différentes. Hein. Parce qu'on est quand même ailleurs, on est quand même dans un autre espace avec un mode de fonctionnement qui n'est pas celui du présentiel. Donc c'est pas négligeable non plus, on peut pas ne pas prendre en compte ça. Mais c'est pas parce que les modalités ou les formes du conflit évoluent que le conflit n'est plus là, par exemple.
Eric, on a évoqué la cartographie, Monsieur Robert a évoqué la cartographie dans le cours de son intervention. Est-ce que tu aurais une petite incise à nous faire sur ce sujet qui n'était pas étranger ?
Déjà, je pense qu'effectivement, je suis un peu d'accord avec ce que j'ai entendu sur la volonté de fabriquer un peu un monde à sa manière. Quoi. Et je pense qu'il y a effectivement une sorte de dimension cartographique qui est particulièrement étonnante, elle est prégnante en ce moment dans l'Internet, etc. Et par rapport à cette chose-là, là, ce qui me gêne un peu en ce moment dans l'état de mes préoccupations, c'est-à-dire que la cartographie, ça peut être la considérée comme la pire des choses, la preuve d'une sorte de volonté de dessiner le monde comme on l'entend, etc. Mais c'est aussi particulièrement tentant, et ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est de se mettre dans la peau du cartographe, c'est-à-dire si à un moment vous avez la possibilité, avec trois instruments d'écriture, de redessiner la carte de la France ou sa géopolitique, etc. C'est l'ivresse suprême aussi, quand même, de se dire qu'on peut être un créateur à sa manière. Et c'est là un peu l'état de ma... C'est aussi pour ça que je trouve que la cartographie problématique excessivement intéressante autour de l'Internet, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des relations de domination qui sont très brutales, qui peuvent s'exprimer, mais en même temps, il y a, peut-être pas pour tout le monde, mais je crois aussi quand même, cette sorte de possibilité d'une créativité en lien direct avec l'écriture, et du coup, il y a un peu le côté deux phases de Janus. Donc, je n'ai pas une réponse, c'est des questions.
Merci. Last question.
Une dernière question.
Oui.
Merci. C'est toujours dans la même lancée que la question précédente de la dame. Est-ce qu'en présumant cette performance ou cette performativité de nos systèmes de gestion grâce à l'outil informatique, est-ce que par extension, on n'est pas en train de transférer une certaine intelligence aux machines? Est-ce que cela n'est pas dû à une usure? Est-ce que l'homme n'est-il pas fatigué de réfléchir? Est-ce qu'on veut confier maintenant la réflexion aux machines? Je me pose la question.
Ah, je ne sais pas si l'homme est fatigué de penser. En tout cas, il ferait bien de ne pas l'être, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu tant de pain sur la planche qu'en ce moment. Le fait que les systèmes techno-gestionnaires permettent de créer des catégories, ça ne veut pas dire que ça pense. Ça classe, ça catégorise, oui, mais ça ne pense pas forcément. Enfin, pas au sens conceptuel du terme, en tout cas. À mes yeux. C'est-à-dire que pour le penser classé, pour revenir à la dichotomie de Pérec, on ne peut pas penser sans classer. Un philosophe, un scientifique, s'il veut penser, il faut qu'il classe. Par contre, on peut classer sans penser. On peut classer, j'allais dire, pour le plaisir du classement, sans aller jusqu'à la pensée au sens conceptuel du terme. Et là, on est un peu là-dedans, et ça donne une logique très sèche. Une logique très sèche, qui est une logique de l'injonction. Il faut se caler dans les catégories qui sont données, mais au fond, sans que ce soit véritablement justifié, et en l'occurrence pensé. Il n'y a pas à discuter. Donc ça a un côté quand même assez difficile à appréhender, je trouve. À vivre, en tout cas.
Merci, ça me fait penser à...
Il y avait une question d'Éric Guichard, mais... Je ne sais pas si...
C'est facile parce que...
Moi, j'ai tendance à croire, et là, je sais qu'on est sur le même terrain aussi avec Goody, que mais si, le seul fait de classer, ça fait penser, quoi. C'est-à-dire que on fait des bêtises, on réfléchit pas, on prend tous les mots, on les met dans un sens, dans l'autre, on regarde tous les E qui se terminent, tous les adverbes qui se terminent par ENT, etc. Et paf, à ce moment-là, il y a une sorte de distanciation entre la chose et son signifiant qui fait que ça va donner des idées, d'autres idées de classement, etc. Alors, c'est toujours un peu le problème, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? C'est vrai qu'on a toutes les raisons d'être pessimiste en ce moment par rapport à la dynamique, j'ai envie de dire, sociale, technique, politique, de l'informatique et de l'Internet. Mais d'un autre côté, dans la série, il y a une nouvelle instrumentation qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai qu'à un niveau, à certains niveaux, quand les moines ils ont inventé l'index au Xe siècle, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'était quelque chose qui visait à la construction d'un certain monopole intellectuel, et en même temps, ça a été peut-être quelques siècles après assez dynamique. Bon, voilà. Ouais,
Je sais que tu aimes beaucoup Jacques Goody, je le lis beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis globalement d'accord aussi avec ça, mais je dirais plutôt que classer ça ouvre un potentiel, pour penser, mais qui n'est pas forcément actualisé. Donc, à partir de là, oui, un index, ça peut permettre de penser. Mais ça peut être là et puis de servir absolument, j'allais dire, pas à penser. C'est, à chaque fois qu'on crée des catégories, on peut, j'allais dire, être dans une forme de dynamique intellectuelle face à ces catégories qui nous amènent à les utiliser pour penser, comme un tremplin pour penser. Mais on peut aussi, et je crois que c'est le problème pour ce que j'appelle la technogestion, en rester à la catégorie pour elle-même et à la catégorisation pour elle-même, et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je suis d'accord avec Goody pour penser qu'on peut aller dans un sens de la catégorie à la pensée, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, et alors là, c'est, je ne sais pas si c'est une critique de Goody, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que dans l'autre sens, il peut y avoir une sorte de régression lorsque on prend la catégorie pour elle-même, qu'on la replie sur elle-même et qu'on se contente d'être dans la catégorisation pour la catégorisation, c'est-à-dire que l'outil devient une finalité en soi. Donc l'outil, il peut être intéressant s'il est dépassé et s'il sert tremplin à la pensée. Par contre, je pense qu'il peut être terrible quand il devient une sorte d'objet dans lequel on s'enferme, et d'objet d'enfermement, justement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Goody ne met peut-être pas suffisamment l'accent. C'est une...
Vous ne visez pas directement les bibliothécaires en disant ça, quand même.
Non, moi, je ne visais pas du tout les bibliothécaires.
Merci, c'est juste une petite provocation. Alors, c'est la question que j'aime beaucoup de monsieur me rappelle une perle du bac, qui est certainement une des phrases les plus profondes que j'ai jamais entendues. L'ordinateur calcule plus vite que l'homme parce qu'il n'a que ça à faire. Pensez-y, ça me paraît tout à fait vrai et tout à fait dans notre sujet. Merci à vous.